La voie royale, page 63, deuxième cassette, deuxième piste. C'est toujours Perkin qui parle de Grabeau, à la recherche duquel il veut aller. Une combinaison est plus vraisemblable. Il est parisien. Son père devait inventer des porte-cravates, des démarreurs, des brise-jets. Je pense qu'il est surtout allé régler certains comptes avec lui-même. Je vous en parlerai un jour. Mais il est certainement parti en accord avec le gouvernement de Bangkok. Sinon, on ne tiendrait pas tant à le retrouver. Sans doute est-il venu pour eux et commence-t-il déjà à jouer son propre jeu, ce qui est tout de même prématuré. Sinon, il les tiendrait au courant. Peut-être l'avait-il chargé de contrôler ma position là-haut. Il est précisément parti en mon absence. Mais n'est-il pas parti dans la même région que vous? Il aurait été accueilli à son arrivée par les flèches, et surtout par quelques balles de mes fusils GRAS, G-R-A-S, c'est la marque du fusil, d'instruction. Rien à faire. Il n'a pu tenter de venir, s'il l'a voulu, que par les dents grecques. Quel homme est-ce? Écoutez, pendant son service militaire, il prend en haine un médecin-major qui ne l'avait pas reconnu lorsqu'il était malade, je crois, ou pour toute autre raison. Il se fait porter malade à nouveau la semaine suivante, va à l'infirmerie. Encore toi? J'ai des boutons. Où ça? L'autre ouvre la main, 6 boutons de culotte. 1 mois de prison. Il écrit aussitôt au général, précisant une maladie des yeux. Dès son entrée en prison, j'oubliais de vous dire qu'il avait une blénorragie, il prend du pu blénorragique, sachant parfaitement ce qu'il faisait, se le colle dans l'œil. Fait punir le major. Perd l'œil, bien entendu. Il est borgne. Une de vos têtes toutes rondes de français avec un nez en pomme de terre et un corps de déménageur. Enchanté à Bangkok de ces entrées nonchalantes de grosses brutes dans les bars. Vous voyez cela, les regards qui le suivent à la dérobée, les types qui s'écartent peu à peu et dans un coin des copains, pas beaucoup, qui lèvent leurs verres en vociférant. Évadé de vos bataillons d'Afrique. Encore un dont les rapports avec l'érotisme sont particuliers. Page 65, deuxième partie, chapitre 1er. Depuis 4 jours, la forêt. Depuis 4 jours, campement près des villages nés d'elles comme leur bouddha de bois, comme le chaume de palme de leur hutte, sorti du sol mou en de monstrueux insectes. Décomposition de l'esprit dans cette lumière d'aquarium, d'une épaisseur d'eau. Ils avaient rencontré déjà de petits monuments écrasés, aux pierres si serrées par les racines qui les fixaient au sol comme des pattes, qu'ils ne semblaient plus avoir été élevés par des hommes, mais par des êtres disparus, habitués à cette vie sans horizon, à ces ténèbres marines. Décomposée par les siècles, la voie ne montrait sa présence que par ces masses minérales pourries, avec les 2 yeux de quelques crapauds immobiles dans un angle des pierres. Promesses ou refus, ces monuments abandonnés par la forêt comme des squelettes. La caravane allait-elle enfin atteindre le temple sculpté vers quoi la guidait l'adolescent qui fumait sans discontinuer des cigarettes de Perkin? Ils auraient dû être arrivés depuis 3 heures. La forêt et la chaleur étaient pourtant plus fortes que l'inquiétude. Claude sombrait comme dans une maladie, dans cette fermentation où les formes se gonflaient, s'allongeaient, pourrissaient hors du monde dans lequel l'homme compte, qui le séparait de lui-même avec la force de l'obscurité. Et partout, les insectes. Les autres animaux, furtifs et le plus souvent invisibles, venaient d'un autre univers où les feuilles des arbres ne semblaient pas collées par l'air même aux feuilles gluantes sur lesquelles marchent les chevaux. De l'univers qui apparaissait parfois dans les furieuses trouées de soleil, dans les remous d'atomes scintillants où passaient rapides des ombres d'oiseaux. Les insectes, eux, vivaient de la forêt. Depuis les boules noires qu'écrasaient les sabots des bœufs attelés aux charrettes et les fourmis qui gravissaient en tremblotant les troncs poreux, jusqu'aux araignées retenues par leurs pattes de sauterelles au centre de toiles de 4 mètres dont les fils recueillaient le jour qui traînait encore auprès du sol et apparaissaient de loin sur la confusion des formes phosphorescentes et géométriques dans une immobilité d'éternité. Seule, sur les mouvements de mollusques de la brousse, elle fixait des figures qu'une trouble analogie reliait aux autres insectes, aux cancrelats, aux mouches, aux bêtes sans nom dont la tête sortait de la carapace, aux rats des mousses, à l'écœurante virulence d'une vie de microscope. Les termitières, hautes et blanchâtres, sur lesquelles les termites ne se voyaient jamais, élevaient dans la pénombre leurs pics de planètes abandonnées, comme si elles eussent trouvé naissance dans la corruption de l'air, dans l'odeur de champignons, dans la présence de minuscules sangsues agglutinées sous les feuilles comme des œufs de mouche. L'unité de la forêt maintenant s'imposait. Depuis 6 jours, Claude avait renoncé à séparer les êtres des formes, la vie qui bouge de la vie qui suinte. Une puissance inconnue liait aux arbres les fongosités, faisait grouiller toutes ces choses provisoires sur un sol semblable à l'écume des marais, dans ces bois fumants de commencement du monde. Quel acte humain, ici, avait un sens? Quelle volonté conservait sa force? Tout se ramifiait, s'amollissait, s'efforçait de s'accorder à ce monde ignoble et attirant à la fois, comme le regard des idiots, et qui attaquait les nerfs avec la même puissance abjecte que ces araignées suspendues entre les branches, dont il avait d'abord eu tant de peine à détourner les yeux. Les chevaux marchaient le col baissé, en silence. Le jeune guide avançait lentement, mais sans hésiter, suivi du Cambodgien que le délégué avait adjoint à la caravane pour réquisitionner les conducteurs et pour la surveiller. Svay, S-V-A-Y. À l'instant où, le plus vite possible, Claude tournait la tête, sa crainte maladive de se jeter dans une toile d'araignée l'obligeait à regarder avec soin devant lui, un contact le fit sursauter. Perken venait de lui toucher le bras, indiquant de sa cigarette, très rouge dans cet air si sombre, une masse perdue dans les arbres et d'où, çà et là, sortait des roseaux. Une fois de plus, Claude n'avait rien su distinguer à travers les troncs. Il s'approcha des vestiges d'un mur de pierre brune, taché de mousse. Quelques petites boules de rosée, qui ne s'étaient pas encore évaporées, brillaient. L'enceinte, pensa-t-il, le fossé a été comblé. Le sentier se perdait sous leurs pieds. De l'autre côté de l'éboulis qu'ils contournèrent, une profusion de roseaux, serrés comme ceux d'une claie, barrait la forêt à hauteur d'homme. Le boy cria aux conducteurs des charrettes de venir avec leur coupe-coupe. Voix stagnante, écrasée par la voûte des feuilles. Les mains à demi crispées de Claude se souvenaient des fouilles lorsque le marteau, retenu, cherche à travers la couche de terre un objet inconnu. Le buste des conducteurs s'abaissait d'un mouvement lent, presque paresseux, et se relevait d'un coup, droit, dominé par la tache bleue du fer qui reflétait, en tournant, la clarté du ciel invisible. À chaque mouvement des fers parallèles, de droite à gauche, Claude sentait dans son bras l'aiguille d'un médecin qui, jadis, cherchant maladroitement sa veine, lui raclait la chair. Du chemin qui, peu à peu, s'approfondissait, montait une odeur de marais plus fade que celle de la forêt. Perkel suivait pas à pas les conducteurs. Sous ses souliers de cuir, un roseau mort sans doute depuis longtemps craqua avec un bruit sec. Deux grenouilles des ruines s'enfuirent sans hâte. Au-dessus des arbres, de grands oiseaux s'envolèrent lourdement. Les faucheurs venaient d'atteindre un mur. Il devenait facile de retrouver la porte pour s'orienter ensuite. Il n'avait pu dériver qu'à gauche. Il suffisait donc de suivre le mur vers la droite. Roseaux et buissons épineux venaient jusqu'à son pied. Claude, d'un rétablissement, se trouva sur lui. « Pouvez-vous avancer ?» demanda Perkel. Le mur traversait la végétation comme un chemin, mais sous une mousse gluante. La chute, si Claude voulait marcher, était d'un extrême danger. La gangrène est aussi maîtresse de la forêt que l'insecte. Il commença à avancer à plat ventre. La mousse à l'odeur de pourriture, couverte de feuilles mi-visqueuses, mi-réduites aux nervures comme si elle les eût en partie digérées, s'étendait à la hauteur de son visage, grossi par la proximité, vaguement agité dans l'air si calme, rappelant, par le mouvement des fibrilles, la présence des insectes. Au troisième mètre, il sentit un chatouillement. Il s'arrêta, raclant son cou de sa main. Le chatouillement passa sur elle, il la ramena aussitôt. Deux fourmis noires, grandes comme des guêpes, les antennes distinctes, essayaient de se glisser entre ses doigts. Il secoua sa main de toute sa force. Elles tombèrent. Il était déjà debout. Pas de fourmis sur ses vêtements. À l'extrémité du mur, à 100 mètres, une trouée plus claire. La porte, sans doute, et les sculptures. En bas, le sol criblé de pierres éboulées. Sur la trouée claire, une branche passait en silhouette. De grandes fourmis, le ventre en silhouette aussi, les pattes invisibles, la suivaient comme un pont. Claude voulut l'écarter, mais il la manqua d'abord. « Il faut absolument que j'arrive au bout. » S'il y a des fourmis rouges, ça ira mal. Mais si je revenais, ça irait plus mal. À moins qu'on ait exagéré. Eh bien, cria Perkel. Il ne répondit rien, avança d'un pas. Équilibre plus que précaire. Ce mur attirait ses mains avec une force d'être vivant. Il se laissa tomber sur lui, et à l'instant, conseillé par ses muscles, il comprit comment il devait marcher. Non sur les mains et les genoux, mais sur les mains et la pointe des pieds. Il pensa au gros dos des chats. Il avança aussitôt. Chaque main pouvait défendre l'autre. Pieds et mollets étaient protégés par le cuir, leur contact avec la mousse réduit au minimum.
« Ça va !» cria-t-il.
Sa voix le surprit. Criarde et désaccordée, elle n'avait pas encore oublié les fourmis. Il avançait lentement, exaspéré par le peu d'obéissance de son corps maladroit, par les mouvements impatients qui jetaient ses reins de droite à gauche au lieu de le faire aller plus vite. Il s'arrêta encore, une main en l'air, chien au guet, bloqué par une nouvelle sensation que sa surexcitation avait retardée. Dans sa main levée persistait l'écrasement de minuscules œufs agglutinés, de bêtes à coque.
De nouveau, ses membres étaient enrayés. Il ne voyait que la tache de lumière qui l'absorbait, mais ses nerfs ne voyaient que les insectes écrasés, n'obéissaient qu'à leur contact. Déjà relevé, crachant, il vit, grouillante d'insectes, une seconde, ces pierres du sol sur quoi pouvait s'écraser sa vie. Dérivé du dégoût par le danger, il retomba sur le mur avec une brutalité de bête en fuite, avançant de nouveau, ses mains gluantes, collées aux feuilles pourries, hébété de dégoût, n'existant que pour cette trouée qui le tirait par les yeux. Comme une chose qui éclate, elle fit place au ciel. Il s'arrêta, stupide. Dans cette position, il ne savait plus sauter. Il put enfin prendre l'angle du mur et descendre. Des dalles envahies par les basses herbes conduisaient à une nouvelle masse sombre. Une seule tour, de toute évidence. Il connaissait les plans de ce genre de sanctuaire. Libre enfin de courir comme un homme, il se jeta en avant, la tête mal protégée par le bras replié, au risque de s'ouvrir la gorge sur une liane de rotin. Inutile de chercher des sculptures, le monument était inachevé. Chapitre 2, page 71. La forêt s'était refermée sur cet espoir abandonné. Depuis des jours, la caravane n'avait rencontré que des ruines sans importance. Vivante et morte, comme le lit d'un fleuve, la voie royale ne menait plus qu'aux vestiges que laissent derrière elle, tels des ossements, les migrations et les armées. Au dernier village, des chercheurs de bois avaient parlé d'un grand édifice, le Ta-Mehan, T-A, du loin M-E-A-N, situé à la crête des monts, entre les marches cambodgiennes et une partie explorée du Siam, dans une région Moy. Plusieurs centaines de mètres de bas-relief. Si c'était vrai, un sinistre supplice de Tantale ne les attendait-il pas là? Impossible de sortir une seule pierre du mur d'Angkor Wat, avait dit Perkel, hors de doute. La sueur coulait sur le visage de Claude et sur son corps, gluante, intolérable. Bien que, dans cette forêt parcourue une fois l'an, par quelques minables caravanes de charrettes chargées de verroterie que les indigènes allaient troquer contre le sticlac et les cardamomes des sauvages, sa vie valut le prix d'une balle. Il ne croyait pas que les pirates osassent attaquer, sans l'espoir d'un grand profit, des Européens armés. Mais ces pirates connaissaient peut-être des temples. Et pourtant, l'inquiétude rôdait en lui. La fatigue, pensa-t-il. À l'instant même, il comprit que son regard, qui depuis quelques minutes errait sur la toison d'arbres d'une colline apparue dans une trouée, suivait la fumée d'un feu. Depuis plusieurs jours, il n'avait pas rencontré un être humain. Les indigènes, eux, avaient vu la fumée. Tous la suivaient du regard, les épaules rentrées dans le cou, comme en face d'une catastrophe. Malgré l'absence du vent, une bouffée d'odeur de chair brûlée passa. Les animaux s'arrêtèrent. « Des sauvages nomades, » dit Perkel. « S'ils brûlent leurs morts, ils sont tous là-bas. » Il sortit son revolver. Mais s'ils tiennent la piste, il entrait déjà dans les feuilles, Claude sur ses talons, les mains contre le corps par crainte des sangsues qui commençaient à s'agglutiner sur leurs vêtements, les doigts crispés sur le revolver, ils avançaient, l'épaule en avant, sans un mot. À la transparence soudaine de tout le feuillage qui jaunit la forêt, Claude devina une clairière. Sous le soleil, la rive opposée de la forêt brillait comme de l'eau, dominé par de minces palmes au-dessus desquelles montaient toujours verticales, lourdes, lentes, la fumée.
Surtout, restez sous bois, dit Perkin à voix basse.
Des clameurs assourdies les guidaient. Claude fut saisi de nouveau par l'odeur de viande brûlée. Dès qu'il le put, il écarta les branches. Au-dessus d'un rang de buissons qui le gênait, passaient dans un grand mouvement confus des têtes aux grosses lèvres et des fers de lance éblouissants. La sourde mélopée battait le feuillage autour d'eux. Au centre de la clairière, d'une tour trapue faite de claies, la fumée montait, épaisse et blanche. Au sommet, quatre têtes de buffles en bois, aux cornes grandes comme des barques, se plaquaient sur le ciel. Appuyé sur la hampe de sa lance miroitante, se grattant la tête et penché vers l'intérieur du bûcher, un guerrier jaune regardait nu, le sexe dressé. Ainsi tapis, Claude était fixé à ce spectacle par les yeux, par les mains, par les feuilles qu'il sentait malgré ses vêtements, par le sentiment panique qui tombait sur lui, enfant, devant les serpents et les crustacés vivants. Perkin revenait en arrière. Claude se releva en toute hâte, prêt à tirer. Dès que s'éteignit le craquement des branches, le courant de la mélopée se rétablit à travers le silence, de plus en plus faible à mesure qu'ils s'éloignaient. Ils retrouvèrent leur caravane.
« Hop, sinon !» dit Perkin rageusement.
Les charrettes repartirent précipitamment, avec un arpège des cieux qui retentit dans chacun des muscles de Claude. Entre les arbres, quelquefois, la fumée apparaissait encore immobile. Dès qu'ils la voyaient, les indigènes tentaient de hâter encore l'allure de leurs bêtes, recroquevillées sur le timon des charrettes comme par une terreur sacrée. Parfois, apparaissaient de l'autre côté d'un ravin, par grands pans, des roches orangées vers lesquelles s'élevait la marée des arbres, éclatante sur le ciel dont l'outre-mer s'affaiblissait à peine. Dès qu'une nouvelle trouée les délivrait de la forêt, tous suivaient des yeux la cime des arbres lointains, craignant de découvrir un nouveau feu. Rien ne troublait l'immobilité du ciel et des masses du feuillage sur lesquelles l'air chaud tremblait comme au-dessus d'une cheminée, à grandes ondes précipitées. La nuit et le jour. La nuit et le jour. Enfin, un dernier village grelottant de paludisme, perdu dans l'universelle désagrégation des choses sous le soleil invisible. Quelquefois, de plus en plus proche, les montagnes. Les branches basses retombaient en claquant sur le toit des charrettes, comme sur des caisses de résonance. Mais cette intermittente flagellation elle-même se décomposait dans la chaleur. Contre l'air suffocant qui montait du ciel, subsistait seule l'affirmation du dernier guide. Le monument vers lequel il marchait maintenant était sculpté.
Comme toujours.
Bien qu'il doutât de ce temple, de chacun de ceux vers quoi il marcherait, Claude restait lié à leur ensemble par une confiance trouble, faite d'affirmations logiques et de doutes si profonds qu'ils en devenaient physiques, comme si ses yeux et ses nerfs eussent protesté contre son espoir, contre les promesses jamais tenues de ce fantôme de route. Enfin, ils atteignirent un mur. Le regard de Claude commençait à s'habituer à la forêt. Assez près pour distinguer les mille pattes qui parcouraient la pierre, il vit que ce guide, plus ingénieux que les précédents, les avait conduits à un affaiblissement qui ne pouvait marquer que la place de l'ancienne entrée. Comme autour des autres temples montaient les grilles enchevêtrées des roseaux. Perkin, qui maintenant n'ignorait plus la végétation des monuments, indiqua une une direction. Là, la masse des roseaux était moins dense. Les dalles. Elles conduisaient certainement au sanctuaire. Les conducteurs se mirent à l'ouvrage. Dans un bruit de papier froissé, les roseaux tranchés tombaient à droite et à gauche avec mollesse, laissant sur le sol des pointes très blanches dans la pénombre, la moelle des tiges coupées en sifflets. Si ce temple-ci est sans sculpture et sans statue, songeait Claude, quelle chance nous reste. Aucun conducteur ne nous accompagnera au Tamehan, Perken, le boy et moi. Depuis que nous avons croisé les sauvages, ils n'ont qu'un désir, filer. À trois, comment manœuvrer les blocs de 2 tonnes des grands bas-reliefs? Des statues peut-être, et puis la chance. Tout ça est bête comme une histoire de chercheur de trésors. Son regard quitta les éclairs des coupes-coupes et retomba sur le sol. Les sections des roseaux devenaient déjà brunes. Prendre lui aussi un coupe-coupe et frapper plus fort que ses paysans. Ah, de grands coups de faux à travers ses roseaux. Le guide le toucha doucement pour attirer son attention. Après la chute d'une dernière touffe, protégée par les pierres, rayée par quelques roseaux restés debout, les blocs qui formaient la porte se distinguaient, lisses, sans sculpture, encore une fois. Le guide souriait, l'index toujours tendu. Jamais Claude n'avait éprouvé un tel désir de frapper. Serrant les poings, il se retourna vers Perken, qui souriait aussi. L'amitié que Claude lui portait se changea d'un coup en fureur. Pourtant, orienté par la direction commune des regards, il détourna la tête. La porte, qui sans doute avait été monumentale, commençait en avant du mur et non où il la cherchait. Ce que regardaient tous ces hommes habitués à la forêt, c'était l'un de ses angles, debout comme une pyramide sur des décombres, et portant à son sommet, fragile mais intact, une figure de grès au diadème sculpté avec une extrême précision. Claude, entre les feuilles, distinguait maintenant un oiseau de pierre avec des ailes éployées et un bec de perroquet. Un épais ray de soleil se brisait sur l'une de ses pattes. Sa colère disparut dans ce minuscule espace éblouissant. La joie l'envahit, une reconnaissance sans objet, une allégresse aussitôt suivie d'un attendrissement stupide. Il avança sans y prendre garde, possédé par la sculpture, jusqu'en face de la porte. Le linteau s'était écroulé, entraînant tout ce qui le surmontait, mais les branches qui enserraient les montants restaient debout, tressées, formait une voûte à la fois noueuse et molle que le soleil ne traversait pas. À travers le tunnel, au-delà des pierres écroulées dont les angles noirs à contre-jour obstruaient le passage, était tendu un rideau de pariétaires, de plantes légères ramifiées en veines de serre. Perken le creva, découvrant un éblouissement confus d'où ne sortaient que les triangles des feuilles d'agave d'un éclat de miroir. Claude franchit le passage, de pierre en pierre, en s'appuyant au mur, et frotta contre son pantalon ses mains pour se délivrer de la sensation d'éponge née de la mousse. Il se souvint soudain du mur aux fourmis. Comme alors, un trou brillant, peuplé de feuilles, semblait s'être évanoui dans la grande lumière trouble, rétabli une fois de plus sur son empire pourri. Des pierres, quelques-unes à plat, presque tout un angle en l'air. Un chantier envahi par la brousse. Des pans de murs de grès violets, les uns sculptés, les autres nus, d'où pendaient des fougères. Certains portaient la patine rouge du feu. Devant lui, des bas-reliefs de haute époque, très indianisé, Claude s'approchait d'eux, mais très beau, entourait d'anciennes ouvertures à demi cachées sous un rempart de pierres éboulées. Il se décida à les dépasser du regard. Au-dessus, trois tours démolies jusqu'à 2 mètres du sol, leurs trois tronçons sortant d'un écroulement si total que la végétation naine seule s'y développait, comme fichée dans cet éboulis. Des grenouilles jaunes s'en écartaient avec lenteur. Les ombres s'étaient raccourcies. Le soleil invisible montait dans le ciel. Un immobile frémissement, une vibration sans fin animait les dernières feuilles, bien qu'aucun vent ne se fût levé. La chaleur. Une pierre détachée tomba, retentit 2 fois, sourdement d'abord, puis avec un son clair, appelant dans l'esprit de Claude le mot « insolite ». Plus que ces pierres mortes, à peine animées par le cheminement des grenouilles qui n'avaient jamais vu d'homme, que ce temple écrasé sous un si décisif abandon, que la violence clandestine de la vie végétale, quelque chose d'inhumain, faisait peser sur les décombres et les plantes voraces fixées comme des êtres terrifiés, une angoisse qui protégeait avec une force de cadavre ces figures dont le geste séculaire régnait sur une cour de 1000 pattes et de bêtes des ruines. Perken le dépassa. Ce monde d'abîmes sous-marins perdit sa vie comme une méduse jetée sur une grève, sans force tout à coup contre 2 hommes blancs. « Je vais chercher les instruments. » Son ombre s'enfonça dans le tunnel, où les pariétaires déchirés pendaient. Il semblait que la tour principale se fût écroulée tout entière d'un seul côté, car 3 de ses murs étaient restés debout à l'extrémité du plus gros amoncellement. Entre eux, le sol avait été jadis profondément creusé. Les indigènes, chercheurs de trésors, étaient venus après les incendiaires siamois. Au centre même de l'excavation, une termitière se dressait, pointue, couleur de ciment, abandonnée sans doute. Perken revint, une scie à métaux et un bâton à la main, un marteau sortant la tête de sa poche gauche distendue par un poids. Il en tira une masse de carrier et l'emmancha au bout du bâton. Zvai est resté au village, comme je le lui ai dit. Claude avait déjà saisi la scie, dont la monture nickelée brillait sur la pierre sombre. Près d'un des murs, écroulé en escalier, et dont un bas-relief était à sa portée, il hésitait. « Qu'avez-vous ? » lui demanda Perken. « C'est idiot, j'ai l'impression que ça ne marchera pas. » Il voyait cette pierre, comme pour la première fois, il ne pouvait échapper à l'idée d'une disproportion entre elle et la scie, d'une impossibilité. Il attaqua le bloc après l'avoir mouillé. La scie pénétra dans le grès en grinçant. Au 5e effort, elle glissa. Il la sortit de l'entaille, plus une dent. Il possédait 2 douzaines de lames. L'entaille était profonde d'1 centimètre. Il jeta la scie et regarda devant lui. Par terre, nombre de pierres portaient des fragments de bas-reliefs presque effacés. Il ne leur avait pas encore prêté attention, obsédé par les murs. Celles dont la face sculptée était tournée du côté du sol n'auraient-elles pas été protégées par la terre ? Perken avait devancé sa pensée. Il avait appelé les conducteurs qui firent rapidement des leviers avec de jeunes arbres et commencèrent à retourner les blocs. La pierre, lentement, se soulevait, pivotait sur l'une de ses faces et retombait avec un rang sourd, montrant à travers le réseau que traçait la fuite des cloportes affolées les traces d'une figure. Sur l'alvéole laissée dans la terre, nette et vernie comme un moule, un nouveau bloc tombait, et une à une, Les pierres montraient leurs faces rongées par le sol depuis le dernier siècle des invasions siamoises, à travers l'épouvante des insectes, dont les lignes tremblantes se brisaient en se précipitant vers la forêt avec une infime frénésie. Plus les bas-reliefs montraient leurs formes ravagées, plus s'imposait de nouveau à Claude la certitude que seules les pierres qui formaient l'un des pans restés debout du temple principal pourraient être emportées. Sculptées sur les deux côtés, les pierres d'angle figuraient deux danseuses. Le motif était sculpté sur trois pierres superposées. Celle du sommet, sous une poussée assez forte, tomberait sans doute. Combien cela vaut-il, à votre avis ? Demanda Perkin. Les deux danseuses ? Oui. Difficile à savoir. En tout cas, plus de 500 000 francs. Vous êtes sûr ? Oui. Ces mitrailleuses qu'il était allé chercher en Europe, elles étaient là, dans cette forêt qu'il connaissait, dans ces pierres. Y avait-il des temples dans sa région ? Peut-être pouvait-il attendre d'eux beaucoup plus que ces mitrailleuses. Ne pourrait-il pas, s'il trouvait là-haut quelques temples, intervenir à Bangkok en même temps qu'il armerait ses hommes ? Un autre temple, 10 mitrailleuses, 200 fusils. En face de ce monument, il oubliait le grand nombre de temples sans sculpture, il oubliait la voie, il imaginait ses défilés, avec la ligne éclatante du soleil sur le canon des mitrailleuses et l'étincelle du point de mire. Déjà, Claude faisait dégager le sol afin que la pierre ne se brisât pas en en rencontrant une autre. Pendant que les hommes maniaient les blocs, il la regardait. Sur l'une des têtes, dont les lèvres souriaient comme le font d'ordinaire celles des statues khmères, une mousse très fine s'étendait d'un gris bleu, semblable au duvet des pêches d'Europe. Trois hommes la poussèrent de l'épaule en mesure. Elle bascula, tomba sur sa tranche et s'enfonça assez profondément pour rester droite. Son déplacement avait creusé dans la pierre sur laquelle elle reposait deux raies brillantes que suivaient en rang des fourmis mates, tout occupées à sauver leurs œufs. Mais cette seconde pierre, dont la face supérieure apparaissait maintenant, n'était pas posée comme la première. Elle était encastrée dans le mur encore debout, prise entre deux blocs de plusieurs tonnes. L'en dégager, il eût fallu jeter bas tout le mur. Et si les pierres des parties sculptées, d'un grès choisi, pouvaient être à grand-peine maniées, les autres, énormes, devait rester immobile jusqu'à ce que quelques siècles ou les figuiers des ruines les jetassent par terre. Comment les Siamois avaient-ils pu détruire tant de temples ? On parlait d'éléphants attelés à ces murs en grand nombre. Pas d'éléphants. Il fallait donc couper ou casser cette pierre pour séparer la partie sculptée dont les dernières fourmis s'enfuyaient de la partie brute encadrée dans le mur. Les conducteurs attendaient, appuyés sur leur levier de bois. Perkin avait sorti de sa poche son marteau et un ciseau. Sans doute le plus sage, en effet, était-il de tracer au ciseau une étroite tranchée dans la pierre et de la détacher ainsi. Il commença de frapper. Mais soit qu'il employât mal l'outil, soit que le grès fût très dur, ne sautaient que des fragments de quelques millimètres d'épaisseur. Les indigènes seraient plus maladroits que lui encore. Claude ne quittait pas la pierre du regard. Nette, solide, lourde, sur ce fond tremblant de feuilles et de ronds de soleil, chargée d'hostilité. Il ne distinguait plus les raies ni la poussière du grès. Les dernières fourmis étaient parties sans oublier un seul de leurs œufs mous. Cette pierre était là, opiniâtre, être vivant, passif et capable de refus. En Claude montait une sourde et stupide colère. Il s'arc-bouta et poussa le bloc de toute sa force. Son exaspération croissait, cherchant un objet. Perken, le marteau en l'air, le suivait du regard, la bouche à demi ouverte. Cet homme, qui connaissait si bien la forêt, ignorait tout des pierres. Ah, avoir été maçon 6 mois, faire tirer les hommes tous à la fois sur une corde, autant gratter avec les ongles. Et comment passer une corde? Cependant, c'était sa vie menacée qui était là. Sa vie. Tout l'entêtement, la volonté tendue, toute la fureur dominée qu'il avait guidée à travers cette forêt tendait à découvrir cette barrière, cette pierre immobile, dressée entre le Siam et lui. Plus il la regardait, et plus il était certain qu'il n'atteindrait pas le Tamehan avec les charrettes. Et les pierres du Tamehan ne seraient-elles pas semblables à celles-ci? La volonté de vaincre le bouleversait comme la soif ou la faim, serrait ses doigts sur le manche du marteau qu'il venait d'arracher à Perken. De rage, il cogna sur la pierre de toute sa force. Le marteau rebondit plusieurs fois avec un bruit ridicule dans le silence. Le pied de biche poli qui le terminait brilla en traversant un rayon de soleil. Il s'arrêta, le regard fixe, puis, précipitamment, comme s'il eût craint que son idée ne lui échappât, il retourna le marteau et frappa de nouveau à toute volée près de l'encoche brillante laissée par le ciseau de Perken. Un morceau de plusieurs centimètres de long sauta. Aussitôt, il lâcha le marteau, frotta ses paupières. Par chance, seule la poussière du grès, seule les avait atteintes. Dès qu'il vit clair de nouveau, il sortit de sa poche ses lunettes noires et en protégea ses yeux, puis il recommença à frapper. Le pied de biche était un instrument efficace. Il atteignait le grès sans l'intermédiaire d'un ciseau, avec plus de force et beaucoup plus souvent. Sous chaque coup, une large écaille sautait. Dans quelques heures, il fallait faire couper par les indigènes les roseaux qui obstruaient tous les passages. Perken reprit le marteau. Claude, pour préparer le chemin, s'était un peu éloigné avec les conducteurs. Il entendait les coups nets, rapides et inégaux comme ceux des manipulateurs de télégraphe, qui dominaient le bruit des roseaux fauchés, humains et vains dans l'immense silence de la brousse, dans la chaleur. Quand il revint, des écailles de grès jonchaient le sol autour d'une coulée de poussière dont la couleur l'étonna. Blanche, bien que le grès fût violet. Perken se retourna et Claude vit l'entaille, claire comme la poussière, large, car il était impossible de frapper toujours au même endroit. Fin de la deuxième piste de la deuxième cassette. La voix royale d'André Malraux, page 82.